L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, au Maroc, le boycott de certaines marques pour dénoncer le coût de la vie de plus en plus cher. En France, l'interdiction généralisée des téléphones portables dans les écoles et les collèges. Et les Suisses qui s'inquiètent de la vente de drogue dans les rues. Au programme également, encore des propos polémiques du secrétaire d'État flamand nationaliste Theo Franken sur la question migratoire. Et en Ontario, le retour au pouvoir des progressistes conservateurs. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Suisse, Joël Marchetti, votre personnalité de la semaine n'est pas une personne, mais un journal. Le Matin, le quotidien populaire roman, supprime sa version papier.
Oui, Le Matin est un pilier de la presse populaire romande. Il est pour beaucoup le compagnon indispensable au café Le Matin. Et après 125 ans d'histoire sous divers titres, le quotidien payant le plus lu de Suisse romande va cesser de paraître le samedi 21 juillet. Il deviendra le premier quotidien suisse à faire le pas du tout numérique. Le couperet est tombé après des mois de rumeurs et des années de pertes financières. Il faut dire qu'en Suisse, comme ailleurs, les médias sont sous forte pression, notamment en raison des profondes transformations du modèle d'affaires ainsi que des nouvelles habitudes de consommation. Les syndicats, eux, ont réagi avec vigueur face à cette nouvelle réduction de la diversité de la presse en Suisse romande.
En France, gros plan cette semaine sur le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. L'actuel bras droit du président Macron est visé par une enquête du parquet national financier. Enquête sur de possibles conflits d'intérêts en lien avec l'armateur italo-suisse MSC. Le groupe a été fondé d'ailleurs par des membres de sa propre famille. Les soupçons concernent la période 2012-2016, quand Alexis Kohler travaillait au ministère de l'économie et des finances. La question est de savoir si, dans ses fonctions à Bercy, Alexis Kohler a, oui ou non, favorisé cet armateur quand il a traversé une période de grandes difficultés. La Belgique, Olivier Nederland, a rendu hommage aux deux policières tuées la semaine dernière dans un attentat à Liège.
Oui, beaucoup de monde pour ce dernier hommage et notamment un millier de policiers rassemblés pour les funérailles de Lucille Garcia et Soraya Belkacemi. Des policiers venus de tout le pays, des policiers, des anonymes, de nombreux responsables politiques aussi. Les deux policières ont été décorées à titre posthume. Elles ont été tuées la semaine dernière par un homme manifestement radicalisé en prison. La troisième victime de cette attaque, un jeune homme de 22 ans, a lui aussi été inhumé cette semaine, 8 jours après cette attaque revendiquée par les terroristes de l'État islamique.
On part dans l'océan Indien avec vous, Charlotte Hydrac, car Madagascar a un nouveau Premier ministre.
Oui, Christian Ntsay, une personnalité de consensus pour tenter de sortir le pays d'une crise politique entre pouvoir et opposition, une fronde qui a commencé avec l'adoption de nouvelles lois électorales contestées. Jusque-là, haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail, il a été ministre du tourisme en 2002-2003, mais il n'appartient à aucun des trois principaux partis politiques malgaches, sans étiquette donc. Sa priorité, mener le pays vers une élection présidentielle acceptée par tous, en principe avant septembre prochain.
Au Canada, Benoît Audet, c'est un environnementaliste de renommée internationale qui a retenu votre attention cette semaine.
Oui, David de Suzuki, il a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de l'Alberta qui a reconnu sa contribution à titre de vulgarisateur scientifique. La remise de ce diplôme a soulevé une controverse en Alberta, la province où l'on extrait le plus de pétrole au Canada. Quelques dizaines de manifestants en faveur des projets de pipeline ont tenu une manifestation aux portes de l'université lors de la remise du diplôme. Quoi qu'il en soit, l'institution est allée de l'avant malgré tout. C'est le 30e doctorat honorifique que reçoit David Suzuki.
Ça se passe donc au Maroc. Le boycott commercial de certaines marques prend de l'ampleur. Charlotte Hydrac, c'est un boycott pour dénoncer la cherté de la vie.
Oui, une campagne au succès inattendu et qui prend une tournure politique. Un ministre, critiqué pour avoir participé à un sit-in contre le boycott, a présenté sa démission cette semaine. Centrale Danone, filiale du groupe français, s'attend à un repli de 20% de son chiffre d'affaires et ses salariés sont inquiets. Tout est parti d'un appel anonyme lancé sur Facebook fin avril contre trois marques, le lait Danone, l'eau minérale Sidi Ali et l'enseigne de station-service Afrikia, accusée d'être trop chère. Et ça a pris, les consommateurs ont suivi. Mobilisation inédite, souligne le syndicaliste Hossein El Amadi.
C'est un nouveau jour d'action, c'est parce que le Maroc actuellement, avec les grandes répressions des libertés d'expression et de manifestation, les Marocains cherchent tous les moyens possibles pour mettre fin à cette offensive sur le pouvoir d'achat des Marocains.
Selon un sondage, 80% de la population soutient ce mouvement qui illustre aussi un ras-le-bol sur les liens entre pouvoir et économie. Témoignage d'un entrepreneur de Casablanca.
Le problème principal, c'est qu'il y a un mélange entre business et politique. De toute façon, le lobby, il est là. Il y a une concertation entre les compagnies pétrolières, entre les compagnies comme Danone et les autres. Pourquoi payer le double que ce que payent les autres en Europe? Je soutiens pleinement, je le dis haut et fort.
Alors, qui est à l'initiative? Cela reste flou, même si certains accusent des franges du parti islamiste PJD. Ça n'est pas fini en tout cas. La campagne s'élargit maintenant aux sardines. Leur prix a plus que doublé depuis le début du Ramadan.
Au Canada, la campagne électorale la plus suivie des dernières années a connu son dénouement cette semaine. Les électeurs de l'Ontario ont porté au pouvoir le parti progressiste conservateur après 15 années de règne du parti libéral. Et du coup, Benoît Audet, la victoire du nouveau Premier ministre ne fait plus aucun doute.
Non, Doug Ford, qui est arrivé à la tête du parti en mars dernier, a obtenu une large majorité à l'Assemblée législative de la province la plus populeuse au Canada. Le parti libéral, de son côté, a reçu un message clair de la part des électeurs. Il passe du pouvoir au statut de deuxième parti d'opposition. Ce sont les néo-démocrates finalement qui formeront l'opposition officielle au nouveau gouvernement.
Alors, au-delà des résultats, on peut s'attendre aussi à un changement de style à la tête de l'Ontario.
Oui, tout à fait. Doug Ford est un populiste. Il est le frère de l'ancien maire de Toronto, Rob Ford, qui avait fait les manchettes partout dans le monde il y a quelques années en raison de ses problèmes de consommation de drogue. Au cours de la campagne, il a fait plusieurs promesses pour séduire l'électorat. Il veut notamment réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre. Il veut aussi réduire de 12 % le prix des factures d'électricité.
Et cette élection change aussi la dynamique des relations entre l'Ontario et le gouvernement fédéral.
Oui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pouvait compter sur des alliés libéraux au Parlement ontarien. Là, il devra faire face à des conservateurs qui risquent de s'opposer à Ottawa dans certains dossiers. Doug Ford promet, entre autres, de rejeter la taxe sur le carbone qu'Ottawa veut mettre sur pied avec les provinces. Ça rend donc la tâche de Justin Trudeau beaucoup plus difficile.
L'interdiction des téléphones portables dans les écoles et les collèges en France. La proposition de loi a été adoptée cette semaine par les députés français. Les téléphones sont déjà interdits dans 50% des établissements scolaires en France. Il reste donc l'autre moitié à convertir pour que les élèves lèvent le nez de leur portable dans les cours de récréation. Or, à écouter ces premières réactions de collégiens, eh bien, ça ne fera pas que des heureux.
C'est grave, vous voulez interdire le téléphone? Non.
Pendant les longues récréations, on s'ennuie.
Pendant le midi, on a deux heures pour manger, on fait comment?
Personne ne respectera ça.
Et jusqu'ici, le téléphone ne pouvait être autorisé dans la cour, sauf si le proviseur en décidait autrement. Et bien, avec la nouvelle loi, le téléphone sera interdit partout, cours comprises, sauf là encore si le proviseur en décidait autrement. La loi devra aussi préciser le type de sanction en cas d'utilisation des téléphones portables à l'école, car aujourd'hui, le plus souvent, c'est le professeur qui confisque l'appareil. Or, au regard de la loi française, cette confiscation d'un objet est illégale. C'est ce que précise Maître Pio, avocate spécialisée en droit de l'éducation. Elle est interrogée par Solène Lehen.
La confiscation est interdite et c'est une atteinte au droit de propriété. En fait, le seul cas de confiscation autorisé par le code de l'éducation, c'est pour un objet dangereux.
Et le gouvernement français va donc faire voter un nouvel amendement qui autoriserait les enseignants à confisquer l'objet du délit. Débat en Suisse autour du deal de drogue dans les rues. Débat relancé après une tribune du réalisateur Fernand Melgar pour qui il y a dans certains quartiers des zones de non-droit. Le réalisateur accuse aussi les autorités de laisser faire en frisant l'homicide par négligence. Joël Marchetti.
Oui, l'affaire est partie de la ville de Lausanne et ces mots très durs publiés dans la presse ont immédiatement remis le débat sur le deal de rue en une de l'actualité. Ce pavé jeté dans la mare du débat sur les drogues est signé Fernand Melgar, réalisateur engagé à travers ses documentaires par exemple sur le durcissement de la politique d'asile de la Suisse. Il s'est expliqué sur nos ondes sur ce retentissant coup de gueule.
Ça fait 10 ans que je vois du deal qui se fait dans la rue. Pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça si ce sont des adultes. Mais il faut savoir que les dealers sont postés devant les écoles, l'école de mes enfants, et ils sont là à partir de 7h le matin. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il faudrait quand même essayer de protéger nos enfants de ce fléau. Je suis un citoyen et un père de famille. De dire que ce sont des pauvres personnes qui viennent ici et ils ne peuvent rien faire d'autre que dealer pour pouvoir survivre. C'est un réseau mafieux. C'est des gens qui font des allers-retours avec l'Italie. Ils utilisent le système de l'asile. Ils pervertissent le système de l'asile. Je leur demande de ne pas vendre de la drogue à mes enfants.
Et depuis cette prise de position, le débat est parfois très violent, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. D'autant que pour illustrer son propos, Fernand Melgar a publié des photos volées de dealers présumés. Faut-il davantage de répression dans les quartiers concernés par le deal de drogue ouvert ? Pierre Conscience, du parti Solidarité, n'y voit pas une solution.
Là où les politiques sont les plus répressives en Europe, c'est-à-dire en France, c'est là où la consommation est la plus élevée, et là où les politiques sont les plus libérales en matière de consommation de drogue, c'est-à-dire en Hollande, c'est là où elle est la moins élevée. Ça vaut pour le cannabis, ça vaut pour les drogues dures. Les solutions, elles sont à la fois sociales, en matière de santé publique, et aussi en matière de politique migratoire. Parce que le fait qu'on n'octroie pas des permis de séjour à des dizaines de milliers de personnes font que c'est la seule solution pour eux pour travailler.
Il n'aura pas fallu beaucoup de temps aux autorités de la ville de Lausanne pour réagir et annoncer cette semaine des mesures renforcées contre le deal de rue.
En Belgique, une nouvelle polémique autour du dossier des migrations s'invite au Parlement et une fois encore, le secrétaire d'État à la migration fait parler de lui, Olivier Nederland.
Oui, le nationaliste flamand Théo Franken est coutumier des propos polémiques. Cette fois, il estime qu'il faut pouvoir contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou en tout cas l'interprétation qui en est faite. Cet article interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, mais pour Théo Franken, on devrait pouvoir renvoyer les migrants qui arrivent sur les côtes européennes.
Nous devons pouvoir renvoyer les bateaux. Nous devons trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence doit s'y adapter. Je crois qu'il y a des gens en Europe qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe.
La Cour européenne a interdit ces refoulements. Théo Franken, lui, estime que ça doit évoluer. Tollé dans les rangs de l'opposition, embarras aussi au sein de la majorité qui répond à son tour. Le Premier ministre rappelle le caractère sacré de cet article 3 de la Convention européenne. Il n'évoque pas directement les propos tenus par son secrétaire d'État, mais le désaveu est assez implicite. Reste une Europe désunie dans ce dossier, une Europe barricadée qui n'a toujours pas avancé de vraies solutions. Et ça ne fait que renforcer les populismes.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.